Chapitre 9. Sous le ciel que les tourbillons de neige rendent invisible, le corps de Mai Mai se fige déjà sous son manteau cristallin. De l'autre côté de la baie vitrée, Tom Buckle bégaye les mots « une performance artistique », tout en ayant conscience que l'artiste ensanglanté ne risque pas de se relever afin de saluer son auditoire. Adam, Brad et Carl, les membres les plus aguerris de l'unité de 18 hommes chargés de protéger Hollister, s'avancent dans la salle du petit déjeuner. Tous vêtus de noir, le sigle du Crystal Creek Ranch brodé en blanc sur leur poche de chemise, ils ont perdu leur ancienne identité, leur autonomie et leur vie depuis qu'ils ont été modifiés. Tom Buckle, encore sous le choc du suicide de Mai Mai qui le laisse incrédule, prend rapidement la mesure du danger qui le menace. Les trois hommes ont tout de loup en chasse. Ils l'observent avec des regards aussi aiguisés que des couteaux de boucher, et il émane d'eux une froideur qui n'a plus rien d'humain. « Tom !» l'interpelle Hollister sur un ton parfaitement ordinaire. « Vous souvenez-vous du nom de l'assassin du crime dans la tête ? Celui qui a subi un lavage de cerveau ?» Tom recule machinalement. « C'est quoi cette histoire ? À quoi rime tout ce cirque ?» Hollister répond à la question à sa place. « Il se nomme Raymond Shaw. C'est pour cette raison que nous avons baptisé les spécimens de cette espèce des Ray Shaws, précise-t-il en montrant d'un geste les trois agents de sécurité. « Ce sont des modifiés. » C'est-à-dire qu'on leur a inoculé un mécanisme de contrôle. Leur implant cérébral est toutefois différent de ceux que l'on a injectés à Mai Mai, Nick Hawk et tous ceux qui figurent sur la liste Hamlet. La version qui leur est réservée les a intégralement privés de mémoire et de personnalité propre. Ils sont programmés pour devenir des gardes du corps, prêts à donner leur vie pour leur maître. Leur maître, Tom, c'est moi. Et si je leur ordonne de vous tuer, ils le feront sans l'ombre d'une hésitation. Le cinéaste, acculé par les Ray Shaws, se retrouve dos à un buffet. On le sent totalement perdu. Votre travail vous a valu de figurer sur la liste Hamlet, Tom. Vous êtes condamné à mort. Le jeune homme trouve la force de quitter les Ray Shaws des yeux pour croiser le regard de son hôte. Ses talents de scénariste ne lui sont plus d'aucune utilité. Il est incapable de donner un sens à ce qui lui arrive, d'imaginer une fin positive à l'histoire dans laquelle il se trouve soudainement propulsé. Il me serait facile de demander à ces hommes de vous maîtriser, de vous injecter un mécanisme de contrôle et de vous renvoyer en Californie sans le moindre souvenir de ce qui vous est arrivé. Wainwright Hollister contourne la table circulaire et s'approche de Tom Buckle. Connaissez-vous Roger et Jennifer Bosman?
Quoi? Répond Tom, sous le choc.
Roger et Jennifer Bosman.
Ce sont mes voisins.
Vous connaissez donc leur fille Kaylee, une ravissante enfant de 10 ans. Une fois rentré chez vous après avoir rejoint les rangs des modifiés, il suffira que je vous téléphone dans quelques semaines pour vous donner l'ordre de la kidnapper, de la violer, de la torturer et de la tuer avant de vous suicider. Il se plante devant le jeune homme. À la suite d'une affaire aussi horrible, les deux films que vous avez réalisés seront définitivement retirés des circuits et proscrits à jamais. L'influence minime qu'ils ont pu avoir jusqu'à présent s'en trouvera effacée.
Le cinéaste finit par se rendre à l'évidence. Seigneur, c'est donc vrai? Les nanomachines, les injections, les gens transformés en esclaves?
Oui. À ceci près que je n'approuve pas le terme d'esclave, Tom. La majorité de nos congénères sont impétueux, imprudents, ignorants, superstitieux et coupables de comportements irrationnels. Si nous les modifions, c'est précisément pour leur bien et celui de cette planète si fragile.
Vous êtes fou.
Non, Tom. Je suis l'individu le plus lucide que vous avez jamais rencontré. Je ne me fais aucune illusion sur le sens de la vie.
Hollister adresse au jeune homme un sourire bienveillant, digne d'un médecin de campagne dans une œuvre de Norman Rockwell.
J'ai surtout des convictions profondes. Je ne laisse pas nécessairement le sale boulot à autrui. Il m'arrive de modifier moi-même certains individus. Dans votre cas, il serait plus simple de parler d'extermination, mais cela ne m'empêche pas de me montrer équitable, Tom. J'entends vous laisser une chance de survivre lors de la petite épreuve que je vous réserve.
Sans doute parce qu'il a vu trop de films dans sa vie, Tom Buckle envoie son poing au visage de son interlocuteur. Il fait malheureusement preuve d'une grande maladresse, à la façon de ses seconds rôles qui jouent les imbéciles. Hollister part le coup en levant l'avant-bras, saisit au vol le poignet de Buckle et lui tord le bras dans le dos en le repoussant violemment. Le cinéaste s'écrase contre la baie vitrée, les mains en avant.
Il faut équiper Monsieur Buckle et lui fournir les instructions en prévision de la chasse qui l'attend,
ordonne Hollister oreille chose. Au même moment, une violente rafale annonciatrice de tempête balaie la terrasse et le foulard de soie rouge de Mai Mai se met à flotter au-dessus de la morte. On pourrait croire qu'il s'agit de son âme échappée de son corps glacé et silencieux.